Alors, c'est un petit cours de philosophie. Donc, c'est un rappel aux 3 années de philosophie. Mais sur un sujet très particulier. Sur un sujet qui intéresse tout de suite la théologie. C'est-à-dire sur la personne. C'est un fait, quand on regarde le développement de la scolastique, de voir que la scolastique, c'est-à-dire la philosophie scolastique, elle est restée toujours sur le jugement d'existence, ceci est. Et ça, c'était très bon. Mais quand je regarde le développement des philosophes, qu'est-ce que je constate? Dès le XIVe siècle, avec Occam, franciscain, anglais, Occam, quand il regarde le développement de l'intelligence, il dit que l'intelligence est premièrement consciente d'elle-même. Je pense. Je ne dis pas je suis, je pense. Vous voyez que nous retrouvons Descartes. Hein. Il y a une parenté très mystérieuse entre Descartes et Occam. Les professeurs de Descartes étaient occamiens. Et Occam a eu cette idée de voir que la philosophie, c'était pas premièrement dire ceci est, mais se dire premièrement je suis. Et il avait évidemment raison comme théologien de dire que la grande révélation de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est je suis. Yahvé. Je suis celui qui est. Et donc, il a considéré que ce qui était le propre de Dieu était le propre de l'homme. Je crois ça très important pour nous, cette constatation. C'est sûr qu'avec Descartes, la philosophie grecque n'est plus regardée comme la philosophie. Aristote n'est plus regardé comme le philosophe. C'est Descartes. Et c'est quelque chose de très important pour nous de voir qu'avec Descartes, on commence une nouvelle philosophie qui est toute tournée sur l'homme. C'est un éclatement de la philosophie. Et c'est l'intérêt de Descartes. Mais Descartes, ordinairement, est enseigné en France comme le philosophe. Il remplace Aristote. vous avez un phénomène analogue à Descartes en Angleterre. Locke. Vous avez un phénomène analogue en Allemagne, Kant. Donc, on peut voir facilement, en gros, que l'objectivité de la philosophie, ceci est, a complètement disparu sous ces trois aspects. La France, Descartes, l'Angleterre, et l'Allemagne, c'est-à-dire toute l'Europe. Alors, voyez, le phénomène actuel de l'Europe, qui veut être l'Europe, je ne regarde pas les intentions profondes de faire l'Europe de cette manière, pour donner un 7 contre 1 à l'Amérique. C'est ça au fond. On est humilié devant l'Amérique qui passe devant nous, alors on essaie de se rattraper. Un homme politique, être humilié, c'est la pire des choses. Alors, cette Europe qui se construit, qui essaie de se construire, elle se construit non pas du tout sur les vraies bases de l'Europe, mais sur l'Europe qui cherche son unité. Et l'Europe, elle est Descartes, Occam en Angleterre, Kant. Il y a une trinité. Il y a une trinité européenne. Une trinité européenne qui est en 7 contre 1 de la philosophie grecque. Et qui veut être la philosophie européenne. Oui, c'est très net, ça. Cette philosophie européenne, elle est tournée sur l'homme. Toute tournée sur l'homme. Sous trois aspects différents, Descartes, Occam et ses successeurs anglais et Kant, l'Allemagne. Ont développé beaucoup toute une philosophie de la personne. C'est l'homme. La scolastique qui s'est développée à partir de la théologie de saint Thomas. Pour Thomas d'Aquin, le philosophe, c'est Aristote. Thomas d'Aquin ne s'est jamais regardé comme philosophe. Il ne faut jamais oublier ça. Thomas d'Aquin s'est regardé toujours comme théologien. Il était envoyé par Dieu pour clarifier la théologie, y mettre de l'ordre. Alors, c'est une petite expérience qu'on peut faire très facilement. Le premier Thomas d'Aquin, quand il avait 25, 23 ans, 24 ans, c'est le commentaire des sentences. Saint Thomas a découvert Aristote. Il a découvert l'Aristote contre la Sorbonne française, qui n'était pas contente du tout. La Sorbonne française s'appuyait sur Avicenne. Saint Thomas a voulu retrouver Aristote comme philosophe. Alors ça, c'est le grand phénomène, hein. Il a accepté d'être rejeté de la Sorbonne parce qu'il cherchait la vérité. Pour saint Thomas, le philosophe, c'est Aristote. Et lui, il est théologien. Alors, quand on regarde les sentences et la somme théologique, on comprend le passage d'Aristote. C'est une petite expérience que si on a le temps, il faut faire. Pendant 10 ans, je faisais toujours ce point de vue, les sentences et la somme. Alors, on voit ce qu'Aristote a apporté à saint Thomas. Ce qu'Aristote a apporté à saint Thomas, ça a été la distinction du principe et de la propriété. Dans les sentences, saint Thomas demeure au niveau des propriétés, tandis que dans la somme théologique, il creuse et il découvre les principes. En gros, hein, c'est vraiment ça. Il y avait le bulletin de Caen à ce moment-là, le petit bulletin de Caen, qui réclamait tous les mois un article. Et comme j'étais jeune professeur, ça m'amusait beaucoup de faire des gammes. Et je regardais toujours les sentences et la somme. Et voir un peu le passage d'Aristote entre deux. Et je remarquais que c'était toujours dans les sentences, la propriété et le principe sont confondus. Dans la somme, saint Thomas a eu un regard beaucoup plus pénétrant pour bien voir la différence d'un principe et d'une propriété. Autrement dit, Aristote a apporté à saint Thomas ce que Pierre Lombard ne lui donnait pas. Pour Pierre Lombard, la connaissance, elle est autour des différentes modalités d'universel. Ma connaissance intellectuelle commence par l'universel. Tant que je ne connais pas l'universel, je reste infra-intellectuel. Voyez, regardez chez un gosse. Un gosse, au début, papa, c'est tous les hommes. Maman, c'est toutes les femmes. Au bout d'un certain temps, le gosse distingue papa de tous les hommes, maman de toutes les femmes. Et c'est très intéressant à regarder ça. Vous avez sûrement des neveux et des nièces qui sont enfants. Essayez de voir ça. C'est intéressant de voir comment la première découverte de l'intelligence, c'est l'universel. C'est quand même cocasse, hein, découvrir l'universel. Homme. S'il n'y avait pas l'universel, il n'y aurait pas le langage. Alors c'est là où on peut voir la différence entre le langage chinois et le langage grec. Nous dépendons-nous des Grecs. Et la Chine est restée elle-même. Tandis que nous avons été, l'Europe, très secouée par la Grèce. Et l'Europe a secoué l'Amérique. Donc il y a ce courant particulier qui n'est pas le même et qui se retrouve alors très profondément dans la conception même de l'intelligence. Pour Pierre Lombard, l'intelligence humaine est autour de l'universel univoque. Genre, différents spécifiques, espèces, propriétés, accidents. Ce qui vient d'Aristote, du reste. C'est la logique d'Aristote, ce sont les différentes modalités d'universel. On a un universel générique, un universel spécifique, un universel de différents spécifiques, un universel de propriété, un universel d'accident. Il y a 5 modalités d'universel. C'est très curieux, hein. Pourquoi 5 modalités d'universel? Pourquoi? Nous avons 5 sens. Le passage de l'expérience, de nos sensations à l'intelligence implique une abstraction. Il y a 5 modalités d'abstraction universelle. Parce que nous avons 5 sens. Il y a un parallélisme très curieux. Et on ne le voit jamais, ça. À Fribourg, où j'avais le temps, j'avais fait un cours pendant toute une année là-dessus. Les similitudes entre nos 5 sens et les 5 modalités de l'universel. Pour comprendre pourquoi il y a 5 modalités d'universel. C'est vrai, c'est intéressant de se poser la question. Pourquoi? Pourquoi le genre? Pourquoi la différence spécifique? Pourquoi l'espèce? Pourquoi la propriété? Pourquoi ce qui est l'accident? Ben, ça vient de quelque chose, ça s'impose à moi. Alors, il faudrait voir si aux 5 modalités d'universel grecques, européennes, américaines, qu'est-ce qui correspond à la Chine? C'est un problème que nous devons nous poser, nous. Que les missionnaires ne se posent pas. Ils apprennent le chinois très bien, ils l'apprennent. Il y a beaucoup de difficultés. Mais un chinois qui est habitué à ça et qui se met à fréquenter la culture grec. Est-ce que nous retrouvons, je pose la question, hein, parce que je crois que c'est très intéressant, est-ce que nous retrouvons dans la pensée chinoise tout à fait élémentaire, fondamentale, parce que le chinois a inventé la langue comme le grec a inventé la langue. On a inventé la langue, pourquoi? Parce que c'était plus rapide. Quand il s'agissait avant qu'il n'y avait pas de langue, on a amené tout au marché. Et on comparait le bœuf à l'âne. Est-ce qu'on peut vendre un bœuf pour un âne? Il y a du commerce. C'était quand on est en face de l'animal et de l'autre animal qu'on comparait. C'était très long. Il fallait discuter. Les qualités différentes du bœuf et de l'âne. Alors on a inventé la langue. Vous voyez, le commerce, hein, le commerce, il fait beaucoup de choses. Hein. Il est toujours l'aile marchande des inventions. Le commerce. Aujourd'hui, on le voit bien, le commerce, il faut toujours être premier dans l'ordre du commerce. Et donc, il faut toujours inventer. Prenez la concurrence des avions. Hein. La concurrence des avions vous rend intelligent et des découvertes pour un modèle plus parfait. C'est extraordinaire de voir ça. Parce que le commerce nous tient pratiquement. Il faut vivre. Et alors, puisqu'il faut vivre, ça rend intelligent. Alors, il y a un problème là que je signale, puisque Saint Jean est tourné vers la Chine, que Saint Jean aime la Chine. J'avais une de mes tantes, sœur de mon père, qui était à Shanghai. Alors, dans ma jeunesse, chaque fois qu'on était distrait, on nous rappelait, mais qu'est-ce que tu fais là? Je pense à notre tante chinoise. C'était le refugium peccatorum. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que la culture chinoise est une culture autre, tout autre. Or, la culture dépend de la parole. La culture dépend de l'abstraction. Alors, vous avez donc cette première abstraction de l'universel. A-t-on dans la langue chinoise quelque chose de semblable? C'est intéressant. C'est une question. Pour moi, c'est une grande question et très intéressante pour voir le génie. Parce que notre foi se communique par la parole. Langue du Christ, la langue des prophètes, ont le même système d'abstraction. Et cinq modalités d'abstraction. Quand vous voulez faire une critique d'un article de journal, essayez de voir comment on joue autour de ces cinq modalités d'abstraction. Premier registre de l'intelligence, cinq modalités d'abstraction que vous retrouvez dans toutes les sciences. s'il n'y avait pas l'universel, il n'y aurait pas de science. La science est née grâce à l'universel. Parce qu'autrement, si c'était que l'individu, il n'y aurait pas de loi. Mais, avec Aristote, et avant Aristote, mais avec Aristote, c'est lui qui l'a le mieux saisi. Nous avons un autre registre de pensée. Pas le chinois. Le chinois, ce serait encore un autre registre de pensée. Un autre registre de pensée qu'on appelle la connaissance analogique. La connaissance analogique, ce n'est pas genre et différence spécifique. La connaissance analogique, ce sont les notions, les raisons analogiques et les différences spécifiques et les modalités. Vous voyez, quand Aristote dit « l'être n'est pas un genre », ça veut dire que je connais l'être d'une manière nouvelle, différente que ma connaissance purement scientifique, par genre et différence spécifique. Je connais l'être analogiquement. Le mot analogique a été saisi par Aristote à passer des mathématiques à la métaphysique. Il ne faut pas l'oublier. L'analogie est d'abord en mathématiques. C'est ce qui unit les mathématiques et la métaphysique. C'est le même mot, analogie. Il y a un second registre de pensée qui est propre non plus à l'intelligence humaine, mais qui est propre à l'intelligence comme intelligence. Autrement dit, Aristote découvre dans notre intelligence humaine l'intelligence comme telle, ut intellectus, et l'intelligence rationnelle, qui est l'intelligence du genre, de la différence spécifique, de l'accident, des cinq modalités universelles. Donc, Aristote, et là, nous dépendons d'Aristote. Aristote a découvert deux registres de pensée. Deux registres d'abstraction. L'abstraction universelle et l'abstraction formelle. Vous voyez, on parle de la ratio endis, la raison d'être. On parle de la raison de paternité. On parle de la raison de maternité. On parle de ce qu'est l'art, ce que c'est que la science, ce que c'est que la sagesse. Et puis le mode, ce n'est plus genre et différence spécifique, c'est ratio et modus, raison et mode. Je parle par exemple de la raison de l'intelligence divine, et je dis que l'intelligence divine est une intelligence sapientiale. Tout de suite, le mode de la connaissance divine est infini. Le mode de ma connaissance est fini. Mais c'est la même intelligence. Mais c'est la différence entre le point de vue générique qui reste toujours lié au genre, c'est-à-dire à la matière, et la connaissance analogique qui, elle, regarde les rationes qui n'impliquent pas de limites. Je crois ceci très très important. C'est pour ça que je vous le rappelle, parce que je crois que c'est capital pour nous. La théologie ne peut s'établir qu'au niveau de l'intelligence analogique. Dieu n'est pas dans un genre. Donc, toute la connaissance universelle et des cinq modalités de l'universel n'entre pas en théologie. Pourquoi ? Parce qu'elles sont limitées par la cause matérielle. Le genre se prend toujours ex parte materiae. Le genre se prend toujours à partir de la matière. Cette distinction-là, saint Thomas l'a prise directement à Aristote. Et c'est la grande différence entre les sentences et la somme. Cette différence entre intelligence et ratio, raison. Mon intelligence humaine est une intelligence raisonnante. Mon intelligence humaine reste une intelligence contemplative. L'intelligence contemplative, c'est le sommet d'intelligence. L'intelligence raisonnante, c'est l'intelligence qui reste dans le genre et la différence spécifique. Une intelligence à l'égard des réalités physiques. Réalités matérielles. Alors, à l'égard des réalités qui ne sont pas matérielles, on cherche les raisons analogiques qui se trouvent réalisées de diverses manières. L'intelligence, elle n'est pas matérielle. Et donc, je peux saisir la raison d'intelligence, la ratio intellectus, et voir que cette intelligence se réalise en Dieu, se réalise en nous. Et toute la théologie, c'est de chercher les rationes communes de Dieu et de l'homme. Les modes différents des rationes en Dieu et en nous. En Dieu, elles sont infinies, en nous, elles sont finies. C'est très important de bien saisir ça. À partir d'Occam, 14e siècle, à partir de Descartes, à partir de Locke, à partir de Kant, on ne voit plus la distinction de intellectus et ratio. On ne fait plus la distinction entre l'intelligence d'universel univoque et d'universel analogique. Alors, vous comprenez bien toutes les erreurs qui peuvent venir. parce que je ne peux attribuer à Dieu que toutes les rationesses qui ne sont pas limitées par la matière. Je ne peux attribuer à Dieu que les perfections qui n'impliquent pas de matière. Mais si mon intelligence humaine ne fait plus la distinction entre l'univoque et l'analogie, l'intelligence humaine n'arrive plus à distinguer ce qui est capable d'être attribué à Dieu et de ce qui n'est pas capable d'être attribué à Dieu. Descartes parle de l'entendement. L'entendement, c'est aussi bien la raison que l'intelligence. Oui, on unifie. Alors il n'y a plus deux registres. Le registre univoque et le registre analogique. Je crois ça très important. Alors, la scolastique s'est développée à partir de Thomas d'Aquin, en voulant puiser dans Thomas d'Aquin sa philosophie. Thomas d'Aquin ne s'est jamais considéré comme un philosophe, mais il s'est considéré comme un théologien. Comme théologien, Thomas d'Aquin a une philosophie, celle d'Aristote. Mais retrouver la philosophie d'Aristote dans la théologie de saint Thomas, c'est un très mauvais calcul. Puisque le théologien se sert de la philosophie. Et en se servant de la philosophie, il modifie complètement la philosophie. De sorte que retrouver la philosophie à partir de la théologie, c'est une très grave erreur. Et cette erreur s'est montrée d'autant plus forte que la philosophie commençant par l'homme et non plus par l'être s'est tout de suite trouvée en face du problème de la personne. Et saint Thomas n'a pas fait de philosophie de la personne. Et il s'en sert comme théologien. Il se sert de la définition de Boès. Donc, la philosophie de la personne n'a pas bougé depuis Boès. Les autres ont voulu faire une philosophie de la personne. Ils étaient libres. Alors, on se trouve maintenant scolastique en face d'un non-développement de la personne au plan philosophique et en face de ces philosophies modernes qui, elles, ont développé la personne. Il faut donc retrouver une vraie philosophie de la personne en dehors de la théologie. Une vraie philosophie de la personne, c'est une philosophie que le philosophe doit faire de lui-même. De lui-même, indépendamment de la théologie. cette philosophie de la personne, elle s'est développée en dehors de la pensée d'Aristote, et elle s'est développée en dehors de la métaphysique. De sorte que la psychologie a pris beaucoup dans le développement de la personne. Alors, la question qui se pose, est-ce que le développement de la personne doit-il se faire en métaphysique ou en philosophie du vivant ? C'est un problème très intéressant, ça. Est-ce que le problème de la personne doit se faire en métaphysique, en montrant que si je fais de la métaphysique, c'est pour développer ma personne ? Et que la métaphysique seule peut vraiment parler de la personne. Que si je pars de la personne uniquement au niveau de la philosophie du vivant, je reste au niveau du vivant et non pas au niveau propre de l'être. Vous voyez, là, il y a un problème qui est vraiment très important à saisir. Est-ce que le problème de la personne doit s'étudier en métaphysique ou le problème de la personne doit s'étudier en philosophie du vivant ? Si on avait le temps, je vous laisserai 10 minutes de silence. Je dirai, écrivez-moi ça sur un petit papier. Je verrai si on considère le problème de la personne comme métaphysique ou comme philosophie du vivant. Personnellement, j'en arrive, mais j'ai beaucoup hésité. Il ne faut pas croire que j'ai beaucoup hésité que le problème de la personne doit être traité en métaphysique. Pourquoi ? Parce que la métaphysique, elle est née à partir de la personne. Le sommet de la métaphysique, c'est l'étude de l'être. Mais quel est l'être dont j'ai l'expérience ? L'être dont j'ai l'expérience, c'est un être personnel. Un être intellectuel. Donc, traiter de la personne uniquement au point de vue de la vie, c'est la psychologie. Traiter de la personne au niveau métaphysique, c'est d'essayer de voir le mode particulier de l'esprit qui est fait pour connaître l'être, qui est fait pour découvrir Dieu. Est-ce que Dieu est en dehors de ma métaphysique ? ou est-ce que Dieu est le sommet de ma métaphysique? Or, pour découvrir Dieu, il faut le problème de la personne. L'être, personne. Le mode de l'être particulier dans la personne. C'est la personne qui peut seule découvrir Dieu. Alors, vous voyez, tout va être axé sur la personne comme la dernière recherche de la métaphysique. Et je poserai l'existence d'un être premier à partir de la personne. Parce que pour moi, l'existence de l'être, où est-ce que je le saisis le mieux? C'est dans la personne humaine. C'est pas dans la vache. La vache, c'est un être magnifique, mais c'est un être assez matériel. Le lait n'est pas tellement spirituel. Je ne peux découvrir l'existence de Dieu qu'à partir de la personne humaine. Et ça, c'est très important. On a fait une très grave faute de considérer les cinq voies de saint Thomas comme cinq voies métaphysiques qui prouvaient l'existence de Dieu. Quand saint Thomas étudie les cinq voies, il le fait en critique. Il le fait au début de la somme, en critique, pour montrer que mon intelligence humaine est faite pour découvrir Dieu. C'est le seul but de saint Thomas. Parce que si mon intelligence humaine ne peut pas par elle-même découvrir Dieu, il n'y a pas de théologie. Puisque si mon intelligence humaine ne peut pas découvrir l'existence de Dieu, elle reste toujours en dessous tout ce qu'elle connaît. Donc, une parole qui vient de Dieu, je ne peux pas la recevoir dans sa signification profonde comme une parole qui vient de Dieu, puisque mon intelligence est incapable de trouver, de toucher l'existence de Dieu. Alors ça, c'est capital de comprendre ça. C'est capital. Il faut le remuer et arriver pour vous à le comprendre. Parce que c'est le grand problème d'aujourd'hui. C'est le problème numéro un de la théologie d'aujourd'hui. Les théologiens d'aujourd'hui sont fidéistes. Fidéiste, ça veut dire que l'intelligence humaine ne peut pas par elle-même découvrir l'existence de Dieu. Il faut la foi. Donc, si l'intelligence humaine ne peut pas par elle-même découvrir l'existence de Dieu, l'intelligence humaine ne peut pas être utilisée par le croyant pour donner une théologie. Puisque si l'intelligence humaine est incapable d'atteindre Dieu, nécessairement, si elle parle de Dieu, elle en parle d'une façon humaine, avec un mode humain. Et donc, elle modifie le mystère de Dieu. Elle le rend subjectif. Et leur temps subjectif, elle ne le connaît pas vraiment. Vous voyez, c'est un problème très délicat, ça. Et je crois que c'est le grand problème qu'on doit poser aujourd'hui. Le fidéisme a été condamné par l'Église. C'est le protestantisme luthérien. Dans le protestantisme luthérien, on affirme que l'intelligence humaine est incapable d'atteindre l'existence de Dieu. Dans le dialogue, je me souviens que j'ai fait avec le pasteur Finet, c'est pour ça que je retiens son nom, avec le pasteur Finet, quand on est arrivé à la question « L'intelligence humaine peut-elle atteindre l'essence de Dieu ?» Alors j'ai vu mon pasteur, il a dit « Ah, non, non, l'intelligence humaine est blessée par le péché. » Et donc l'intelligence humaine par elle-même ne peut pas. Or, l'Église a toujours maintenu ça. Tous les pères de l'Église. C'est quand même assez impressionnant, ça. Tous les pères de l'Église. Et le début des théologiens, Thomas d'Aquin. Et c'est le gros problème. C'est le problème foncier aujourd'hui. Différence entre le catholique et le protestant. Comment voulez-vous faire une théologie, c'est-à-dire utiliser l'intelligence, si l'intelligence par elle-même est incapable de parler de Dieu? Elle est à un niveau inférieur. Alors, on n'est pas fidéiste si on dit, oui, l'Église l'affirme, moi je ne le vois pas encore, je ne le comprends pas encore, c'est normal. L'Église accepte le devenir de l'intelligence, donc on l'accepte, puisque tous les pères de l'Église ont accepté, je l'accepte, puisque Thomas d'Aquin était plus intelligent que moi, je l'accepte. Mais je cherche à le découvrir. Et je vois qu'on a très mal posé le problème. Alors qu'on devrait le poser à partir de la personne humaine. Le poser à partir de la personne humaine, c'est le poser à partir de l'expérience que j'ai de la personne humaine. Quelle est l'expérience la plus forte que j'ai de la personne humaine? C'est dans l'amitié. C'est par l'amitié que je puis le mieux découvrir l'existence de Dieu. L'amitié me fait comprendre que l'ami est une personne. Et que l'ami étant une personne, l'ami appelle l'existence de Dieu. Ça, on verra ça. Parce que vous voyez, tandis que l'être, quand on dit que l'épreuve de l'existence de Dieu, c'est par l'être, oui. Mais c'est très ténu l'être. C'est pas commode de voir. Au fond, l'être. Quelle est ma première expérience de l'être? L'expérience la plus capitale. Papa, maman. J'ai fait l'expérience de l'être d'abord auprès de ma mère, auprès de mon père. Alors, c'était des personnes. C'est pas auprès de la vache que j'ai fait la première expérience de l'être. La première expérience de ma peur à sa tête était le taureau. Et ça se peut, ça. Première expérience de la terreur, mais pas de l'être. Or, c'est... Ça, c'est très, très important, ça. Saint Thomas ne nous donne pas l'épreuve de l'essence de Dieu. Il s'est appuyé sur Saint Augustin. Je ne peux pas m'appuyer sur Saint Augustin, mais Saint Augustin m'y conduit. L'endroit où Saint Thomas, en philosophe, se pose l'essence de Dieu, c'est dans le DNT Saint-Cyr. Mais dans le DNT Saint-Cyr, Saint Thomas n'a pas encore fréquenté Aristote. C'est une œuvre de jeunesse. Il avait 23 ans.